France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Elle touche 10 millions de personnes dans notre pays, 600 millions dans le monde. L'arthrose est la maladie articulaire la plus fréquente et ça ne risque guère de changer puisque l'on estime que près d'un milliard d'individus pourraient être touchés en 2050. Ce qui est lourd de conséquences tant cette affection douloureuse est une des causes majeures de sédentarité chez la personne âgée, favorisant ainsi l'apparition de maladies cardiovasculaires, d'hypertension ou encore de diabète. On ne sait pas aujourd'hui guérir cette maladie, ni même freiner sa progression, et les recherches ont été marquées par de nombreuses désillusions. Actuellement, la prise en charge vise à soulager la douleur et maintenir de la mobilité grâce à des médicaments et des gestes médicaux ou chirurgicaux. Pour un maximum d'efficacité, il serait essentiel d'intervenir le plus en amont possible de l'évolution de la maladie. À ce jour, le diagnostic reste très tardif. Or, tout cela n'est certes pas très joyeux, mais, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles, à la fois pour faire des diagnostics précoces, voire pour dépister les personnes à risque, mais aussi pour traiter autrement l'arthrose, notamment grâce à l'immunothérapie, et ainsi espérer agir sur son évolution. Une équipe française est impliquée dans ces recherches, on reçoit son directeur. Professeur François Ranoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur médical du département appareil locomoteur du groupe hospitalier Paris-Centre sur le site de Cochin et vous dirigez le service de médecine physique et de réadaptation et de rhumatologie, toujours à l'hôpital Cochin. Vous êtes également chercheur à l'INSERM et donc vous avez publié avec votre équipe les résultats de vos travaux dans la revue Nature Communication, un article tout à fait passionnant, on va y venir. Mais d'abord, on va essayer de faire le point un peu sur ce que l'on sait de l'arthrose aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement ce qu'est l'arthrose ?
Alors l'arthrose, c'est une maladie de l'articulation et qui va se traduire par en fait une dégradation du cartilage. Et finalement, d'un point de vue clinique, ça va se traduire par des douleurs et un enraidissement et finalement une diminution fonctionnelle en fait des patients qui vont faire beaucoup moins d'activité. Donc c'est pas du tout une maladie mortelle, mais c'est une maladie qui est ultra fréquente, et aujourd'hui, il n'y a absolument aucun traitement qui soit capable d'agir vraiment sur ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire la maladie moléculaire. On a uniquement des traitements antalgiques et des traitements fonctionnels.
Les douleurs, elles sont de quel type ? Comment on les décrit ?
C'est une maladie qui évolue par poussées. Les poussées sont inflammatoires, et entre les poussées, la maladie est plutôt mécanique. Et donc c'est pour ça que lors des poussées inflammatoires, on va plutôt donner des médicaments, notamment anti-inflammatoires, des infiltrations, alors que entre les poussées, ça va être plutôt un traitement mécanique, et donc ça va être de la rééducation, des orthèses, perte de poids notamment. Donc aujourd'hui, on en est là.
Ces douleurs, je le disais, entraînent une perte de mobilité qui ont des conséquences effectivement sur la santé en général, du coup.
Oui, parce que c'est une maladie qui est quand même liée à l'âge. Sauf les arthroses secondaires, mais l'arthrose vraiment primitive, c'est très lié à l'âge. Et donc, bien évidemment, donc ça va, c'est des patients qui ont plus de 60 ans souvent, et ça va amputer leur périmètre de marche, leurs activités sociales, familiales. Et on sait que ça, c'est un gros facteur de risque de tomber dans la sédentarité. Et donc, on rajoute un sur-risque, qui est un sur-risque, vous le disiez au début, notamment cardiovasculaire.
Toutes les articulations peuvent être touchées ou pas ?
Alors, toutes les articulations sont touchées, mais les principales, aujourd'hui, c'est le genou, la hanche, le dos et la main.
Et comment on explique cette hausse prévue de cas d'arthrose ?
Ouais. Premièrement, c'est lié à l'espérance de vie.
On vieillit donc.
C'est sûr que quand on avait une espérance de vie de 50 ans, l'arthrose n'était pas un problème.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est le corollaire de ce que j'ai dit avant, il n'y a pas de traitement. Donc, il y a une espèce de phénomène additif. Et puis, la troisième chose, c'est que c'est une maladie qui est compliquée, qui n'est pas systémique.
C'est-à-dire
que c'est pas dans le sang, il n'y a pas dans le sang quelque chose qui circule. Et vous savez qu'en médecine, si on veut, on est puissant en termes médicamenteux quand, justement, c'est une maladie générale. Quand c'est une maladie locale, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on a la chirurgie, mais qui n'est pas du tout un traitement. Mmh. C'est juste de changer l'articulation, comme dans une voiture, quoi. On change le moteur. Mais la maladie en elle-même, il est très compliqué d'un point de vue pharmacologique, c'est-à-dire avec des médicaments, de la réguler. Néanmoins, aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord pour dire que si on arrivait à diminuer le nombre de poussées inflammatoires, eh bien, ce serait une grande avancée. Et c'est ce actuellement, les nouveaux traitements, en tout cas, qui sont à l'étude, c'est le but. C'est d'essayer de ne plus avoir ces poussées inflammatoires, parce que au moment des poussées inflammatoires, on sécrète des hormones cellulaires qui vont détruire l'articulation.
On va revenir au traitement et aux essais, mais juste, est-ce que notre mode de vie actuel, le surpoids, voire l'obésité, la sédentarité, ça joue pour expliquer aussi ce nombre en augmentation ?
Alors, vous me demandiez pourquoi il y avait une augmentation de l'incidence de cette maladie. La dernière chose, c'est bien évidemment l'épidémie d'obésité, qui est majeure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pas pour toutes les articulations. Surtout pour le genou, peu pour la hanche.
Pourtant, ça porte aussi quand même.
Oui, mais en termes de contraintes, en fait, le genou est une articulation beaucoup plus fine que la hanche. Hein. Je dis souvent, la hanche, c'est fait pour se sauver, pour pas être mangé par la grosse bête. Le genou, c'est bien différent. C'est fait pour pouvoir se déplacer, aller à droite, à gauche, plus impliqué dans la vie de relation. Donc, c'est beaucoup plus fin comme articulation, avec le système nerveux, d'ailleurs, qui est impliqué. Et donc, on a fait des études où on a montré que si vous prenez 1 kilo, en gros, le genou en prend 7, quoi.
D'accord.
Alors que la hanche, c'est plutôt 2. Donc, c'est surtout pour le genou. Et paradoxalement, également pour la main. Alors que la main n'est pas une articulation portante.
Ah oui. Et comment on l'explique ?
Et comment on l'explique ? On l'explique, maintenant on l'explique de manière assez claire, c'est que l'obésité est une maladie micro-inflammatoire qui va faire synthétiser et sécréter, notamment par les adipocytes, mais pas que.
Cellules graisseuses.
Voilà, par les cellules graisseuses, des hormones cellulaires pro-inflammatoires et qui ont un tropisme, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à aller dans les articulations et essayer de détruire les articulations.
Il y a une part génétique importante ou pas dans l'arthrose ?
Alors, la part génétique, entre guillemets, la plus importante, c'est plutôt une part, on va dire, familiale. C'est tout ce qui est, c'est les dysplasies. Vous savez, les Bretons, les Auvergnats,
Ne vous fâchez pas, c'est vrai.
Non, je suis breton en plus. Donc, où on a une incidence des dysplasies. Oui. Alors, dysplasie, ça veut dire quoi ? C'est en fait l'articulation qui est mal formée.
D'accord.
Et grâce à la biologie moléculaire et la génétique moléculaire, on a pu montrer, notamment, qu'il y avait un gène qui s'appelle GDF5 et qui est muté chez certains de ces patients. Mmh. Et comme par hasard, GDF5, c'est le gène. C'est l'architecte des articulations.
D'accord.
C'est lui qui fait que la hanche va avoir cette forme, le genou cette forme. Et comme par hasard, on montre que quand le promoteur est muté, eh bien, on a beaucoup plus de chance, quoi, de malchance, d'avoir une arthrose de hanche ou des genoux.
Alors, on le disait aujourd'hui, hein, pour soulager les douleurs, on a des médicaments qu'on peut parfois injecter directement dans l'articulation. Il y a la kiné, il y a d'autres thérapies manuelles. On peut remplacer l'articulation par une prothèse, ça, on l'a dit. Globalement, avec tout ça, est-ce qu'il reste des patients non soulagés ?
Alors, oui, il reste des patients non soulagés, ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs la définition de, si vous voulez, quand on commence à parler de chirurgie, c'est lorsqu'on est chez des patients chez qui, justement, on a dépassé, tous ces traitements sont dépassés. Et donc, les patients viennent nous voir en nous disant, j'ai fait les infiltrations, j'ai pris des anti-inflammatoires, des antalgiques, j'ai fait la kiné, pour le genou, j'ai porté une orthèse, une espèce de un peu une genouillère un peu intelligente. Et c'est dans ces cas-là que, on discute avec le chirurgien. Et c'est de la chirurgie fonctionnelle. C'est pas comme l'appendicite, c'est souvent ce que je dis à mes patients.
Oui, l'appendice, on l'enlève.
On l'enlève, c'est fini, la maladie est finie, et 99,9% des patients, le lendemain, sont contents.
Ouais.
Là, c'est pas du tout la même chose, c'est une chirurgie qu'on appelle fonctionnelle. Et donc, ça traite absolument pas la maladie. En fait, ça la supprime au niveau de l'articulation douloureuse.
C'est-à-dire que les résultats sont bons à 100%?
Pour la prothèse?
Oui.
Non. Non, mais ils sont bons.
D'accord.
Ils sont de mieux en mieux. De mieux en mieux, maintenant, avec... la hanche, vraiment, on a des résultats qui sont excellents, au-delà de 90%. Le genou, un petit peu moins, c'est un peu plus complexe. Mais maintenant, vous savez, ils font avec des prothèses qui sont quasiment, entre guillemets, sur mesure. Et puis, il y a aussi une chose, mais ça, c'est vrai dans toute la chirurgie. On a aujourd'hui un chirurgien qui fait du genou, il ne fait que du genou. Et il ne fait pas le lendemain un rachis et le surlendemain une main. Il ne fait que du genou. Et on sait que
la courbe d'apprentissage est extrême.
La courbe d'apprentissage et la compétence est fondamentale. La répétition est fondamentale.
Alors, donc, avec tout ça, c'est vrai qu'on ne sait pas guérir cette maladie.
Non.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'essais depuis des années. On a beaucoup cru à des médicaments qui allaient freiner la destruction du cartilage. Il y a eu beaucoup d'espoir. Rien de probant n'est apparu, très clairement. Avant justement qu'on ne parle des travaux, curieusement, et je l'ai découvert avec vous, cette maladie suscite assez peu de recherches alors qu'elle est très fréquente.
Alors, c'est clair que c'est compliqué. Je dis souvent, quand vous êtes dans une shortlist pour avoir un budget pour faire de la recherche et que vous vous retrouvez face à un projet sur le cancer du sein, un autre sur les maladies, l'infarctus du myocarde ou une maladie infantile gravissime, nous on arrive avec notre arthrose. Il m'est arrivé de certains collègues d'ailleurs de me dire mais est-ce que c'est vraiment une maladie quoi.
Ah oui.
Vous voyez. Et donc
parlez-en aux patients, vous verrez.
Exactement. Et donc c'est difficile, on n'a pas de il y a rien de spectaculaire dans cette maladie. Mmh. Donc entre guillemets, elle est difficile à vendre alors qu'en fait, elle était fréquente.
Ouais.
Alors là maintenant quand même nos décideurs quand même commencent à modifier leur vision des choses, tout simplement parce que c'est une maladie qui coûte très très cher.
C'est ça.
On considère que ça coûte bon an mal an de l'ordre de 5 milliards quand même d'euros par an.
Et on a dit que c'est essentiellement lié aux prothèses.
Et c'est essentiellement lié à la pose de prothèses.
D'accord. Donc, évidemment, toutes les pistes porteuses d'espoir sont essentielles. Donc, venons-en à vos travaux qui reposent sur l'utilisation de l'immunothérapie. Sur quoi repose cette idée? Elle est partie d'où?
Alors, en fait, l'idée, c'était d'essayer de diminuer au maximum les poussées inflammatoires.
Mmh.
On sait quelle est l'hormone cellulaire qui drive, quoi, qui est la principale responsable de ces poussées. C'est l'interleukine 6.
Mmh.
Donc, il y avait eu des essais qui avaient été faits où on avait utilisé des anticorps anti-IL-6, vous savez, qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde.
Oui, parce que la polyarthrite rhumatoïde est beaucoup plus inflammatoire que l'arthrose.
Et elle est systémique.
C'est ça, d'accord.
C'est ça le problème, c'est qu'elle est systémique. Et ces études ont montré que ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que l'arthrose est beaucoup plus proche du diabète ou de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire c'est une maladie micro-inflammatoire, avec un niveau très faible d'expression, mais délétère.
Mmh.
Et donc, ces molécules, en fait, n'avaient aucun effet. Et donc, nous, on a eu l'idée, on s'est dit, on va essayer de faire sécréter par le patient, lui-même, un anticorps contre cette cytokine, IL-6, au niveau de l'articulation, et à un niveau relativement bas. Et donc, on a utilisé le principe de l'immunothérapie, mais en fait, derrière tout ça, c'est celui de la vaccination.
C'est ça, oui.
Et en fait, ce qu'on a fait, on a vacciné les gens contre l'interleukine 6.
De manière générale ou locale?
De manière générale, et en leur faisant sécréter des petites doses d'anticorps bloquants de l'interleukine 6. Alors on a fait ça, c'est un essai de phase 1, hein, donc il faut être très prudent, c'est 24 patients seulement. Mais on a pu montrer que, premièrement, ça marchait, c'est-à-dire qu'on induit vraiment la production de cet anticorps, donc c'est ce qu'on voulait.
Oui.
Et deuxièmement, on a pu montrer que ceux qui étaient dans le bras, on va dire, le bras actif...
La partie de l'essai, hein.
Voilà, pas le placebo, voilà. Mais les autres, eh bien eux... allait mieux fonctionnellement, avait moins de poussées, avait moins de douleurs.
D'accord.
Et chose intéressante, vous savez que la vaccination, ça marche pas sur tout le monde.
Mm-hmm.
Les 20% qui n'ont pas réagi à la vaccination, alors ils étaient dans le bras actif, eh bien, eux n'ont pas été améliorés.
D'accord.
Vous voyez ? Donc, ça fait beaucoup. Ça veut dire que, visiblement, en tout cas, c'est une piste qui est intéressante.
Est-ce qu'on a déjà pu voir ce qui se passait au niveau de l'articulation ou pas?
Eh bien non, pas encore, mais là on va développer...
L'idée c'est de pouvoir freiner cette destruction.
Alors c'est de freiner la destruction en calmant le tissu synovial en fait. Parce que vous savez que dans une articulation, alors on parle du cartilage, de l'os, on imagine... Mais en fait il y a un tissu qui s'appelle le tissu synovial qui est un peu l'expression du sang circulant en fait. On retrouve toutes les cellules,
c'est
mais
du
également
liquide,
du système
en fait.
Immunitaire.
C'est du liquide entre les deux parties de
c'est
l'articulation.
C'est du liquide et un tissu. Et ce tissu, eh bien, dès qu'il s'active, eh bien, il sécrète des cytokines qui sont toxiques et qui vont dégrader l'os, le cartilage. Et donc, c'est ça le principe. Alors, c'est juste un essai de phase 1, mais quand même, on a... on a des... Les résultats, en tout cas, les résultats vont dans le bon sens.
Vous imaginez bien que tous les gens qui souffrent veulent savoir où on va. C'est quoi
oui.
la suite?
Alors la suite, c'est... Là, on est en train de monter un essai européen. On fait ça avec une... En fait, c'est vraiment un partenariat académique à l'hôpital Cochin, donc entre ma structure et également l'incubateur. On a un incubateur à Cochin de start-up biomédicale. Donc c'est une start-up qui s'appelle Peptinov. Et donc on a fait... eux fabriquent, en fait, le vaccin. Mm-hmm. Et nous, on le teste chez les patients. Donc là, on a monté un essai thérapeutique dans 7 pays européens oui. sur 204 patients. Et on va commencer là, probablement là, en 2026. Alors après, c'est long, hein. C'est toujours très long. On aura les premiers résultats.
C'est des
résultats.
Années.
Ah oui, on a les premiers résultats, on les aura dans 3 ans, oui. au mieux dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans.
Et techniquement, si tout ça, ça s'avérait toujours aussi intéressant, ça serait une vaccination unique avec des rappels. Ouais, comment ça se passerait?
Très bonne question. C'est une très très bonne question. Là, on faisait juste, on les vaccinait une fois avec un ou deux rappels. Ce serait probablement une vaccination comme pour la grippe. Régulière,
oui.
vous voyez, parce que là, on a montré que ça fonctionne au moins 6-9 mois. Chez l'animal aussi, on a montré même un peu plus, jusqu'à 1 an. Donc, il est possible, oui, que ce soit répétitif dans le temps.
Alors, ça pourrait être associé à autre chose, parce que je disais que l'idée aussi, c'était de traiter le plus tôt possible, pour éviter
oui.
que le cartilage ne soit trop détruit,
ouais.
donc de découvrir la maladie le plus tôt possible. Il y a une équipe américaine qui a développé un test sanguin. Qui montre quoi? Qui pourrait apporter quoi?
En fait, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'ostéoporose il y a 15 ans, 20 ans, avec ce qu'on a appelé le FRAX. On s'est aperçu que l'arthrose, c'était des problèmes... Il y avait l'âge, il y a la forme des articulations. Et puis, on a cherché également des biomarqueurs sanguins. Parce que c'est pratique, on fait une prise de sang et hop, on sait si oui ou non.
Ouais.
Vous savez qu'en oncologie, aujourd'hui, c'est très développé. Et donc, ils ont montré qu'il y avait un marqueur qui était prédictif, en fait, de l'apparition d'une arthrose. Néanmoins, le gros problème, c'est que c'est une maladie qui est tellement fréquente.
Oui.
Est-ce qu'on va traiter 10 millions vous voyez,
on devrait traiter quasiment tout le monde, pratiquement.
On devrait vacciner tout le monde.
Ouais.
Puisque l'arthrose, elle commence, on dit, ça commence entre 20 et 30 ans, mais c'est silencieux. L'arthrose est silencieuse 90% du temps. Et quand elle devient symptomatique, c'est trop tard. Donc ça va dans le bon sens. Mmh. C'est, vous voyez, je donne souvent cette image, comme l'hypertension artérielle et l'accident vasculaire cérébral. Heureusement qu'à 40 ans, on est capable de détecter une hypertension artérielle pour éviter un AVC, un accident vasculaire cérébral, à 70 ans. Ben ça, ce marqueur-là, on l'a pas, et ce ne sera pas un marqueur unique, de toute façon.
D'accord,
c'est pas aussi simple
que de prendre l'attention.
Non, ce sera un marqueur composite, probablement.
Alors, il y a une autre piste qui semble intéressante aussi, avec un médicament qu'on connaît bien, qui est déjà utilisé dans la prise en charge du diabète et de l'obésité, qui pourrait être utile dans l'arthrose. C'est les analogues du GLP-1 qu'on connaît mieux sous le nom d'Ozempic ou de Wegovy.
Oui.
On en est où et comment ça a été découvert?
D'abord, c'est une histoire française, donc il faut le dire. C'est le professeur Francis Berenbaum de l'hôpital Saint-Antoine. C'est vraiment lui qui porte ce projet depuis une quinzaine d'années. En fait, c'est injecter, l'objectif est de l'injecter dans le genou. Et donc là, il y a un essai européen qui est en cours, auquel on participe. Et ça pourrait permettre probablement de réguler également l'inflammation. Donc on a quand même deux voies thérapeutiques françaises. Et dans une maladie, c'est ce que je vous disais en off juste avant, dans une maladie qui est très française.
Mais
en fait.
Pourquoi elle est très française?
Très française parce que elle intéressait pas grand monde. Et dans les années 70, il y a eu trois médecins français, dont Charles-Joël Menkès, qui a été mon maître à l'hôpital Cochin, et qui ont fondé la première société mondiale de l'arthrose. Alors aujourd'hui, c'est une société qui est complètement américaine et que j'ai vice-présidé pendant quelques années, que Francis Berenbaum également a présidé. Mais grâce à ça, c'est sûr que ça a mis cette maladie sur le devant de la scène. Mais en sachant aussi que, c'est ce que je vous ai dit au tout début, le fait d'avoir gagné 15 ans d'espérance de vie ces 40 dernières années fait que cette maladie est devenue automatiquement très très prévalente et très incidente, et donc merci à eux, parce que c'est eux qui ont commencé ça, et donc c'est pour ça que je dis souvent, et les Anglo-Saxons d'ailleurs le savent.
D'accord.
Et ils le disent, que c'est une maladie française.
On peut quand même espérer, en attendant tout ça, peut-être éviter, réduire l'aggravation de l'arthrose,
oui.
À part ne pas vieillir, on peut pas ne pas vieillir, mais est-ce qu'il y a une hygiène de vie à avoir, une alimentation à adopter? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil?
Comme vous dites, c'est tout, comme dans toute maladie, il y a des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. La génétique non modifiable, le sexe non modifiable. Donc, par contre, ce qui est modifiable, c'est le poids. Et alors, le poids, comme je dis souvent, le poids écrase tout le reste.
Mm-hmm.
D'accord. Et souvent, d'ailleurs, les gens me disent, mais alors, j'ai vu de faire des régimes avec uniquement avec. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des régimes toujours un peu farfelus. Je leur dis, il y a qu'un régime à faire. C'est soit vous êtes en surcharge pondérale, il faut maigrir, mm-hmm. point à la ligne. Soit vous ne l'êtes pas et il ne faut pas grossir.
C'est ça.
Okay,
mm-hmm.
Donc, il y a ça. Il y a avoir un niveau d'activité physique qui soit correct.
Mais pas excessif non plus, parce qu'on sait que les sportifs de très haut niveau ont de l'arthrose.
Oui, oui, je dis souvent nos sportifs professionnels, c'est un peu nos souris de laboratoire. Puisque la coxarthrose, par exemple, chez le footballeur professionnel, ça apparaît dès 40 ans. Hein.
Mm-hmm.
La gonarthrose chez les footballeurs américains, c'est très connu. La coxarthrose postérieure chez les skateurs, ceux qui font du ski de fond.
Mmh.
Il y a des cohortes comme ça. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas être dans l'excès.
D'accord.
Et d'ailleurs, si je peux, juste un tout petit message. On commence à avoir de plus en plus des patients intoxiqués au sport, avec deux types d'intoxication. Une première qui est l'intoxication à la course à pied, et qui ont des genoux, on les récupère à 55 ans avec des genoux dans un état, et on leur dit, ça va être une prothèse, et ça leur tombe dessus. Et puis on a une autre intoxication, c'est chez les jeunes, qui se détruisent les épaules à faire dans les salles, à porter, vous savez, des poids.
Sûr,
Donc ça, il faut être prudent, pas d'excès. Mais il faut faire du sport.
De la régularité.
Voilà.
On poursuivra juste après la chronique d'Alexandra Delbo, qui nous parle d'une nouvelle étude sur une capacité de régénération inattendue chez l'embryon de souris. C'est la chronique Avec Science.
Carnet de santé.
Et si, chez les mammifères, la régénération n'était pas totalement impossible? La régénération, c'est une capacité spectaculaire, mais assez rare dans le règne animal. L'axolotl, par exemple, en est le champion toute catégorie. Il peut faire repousser une patte, un œil, son cœur, sa moelle épinière, voire une partie de son cerveau, et tout cela sans cicatrice. La salamandre, les étoiles de mer, les vers de terre ou encore les lézards peuvent aussi régénérer certaines extrémités de leur corps. Chez les mammifères, en revanche, c'est presque inexistant. Le seul animal qui, à l'âge adulte, en est capable, c'est le cerf, avec ses bois qui repoussent chaque année. Mais il existe un autre cas, beaucoup moins connu. Dans les années 90, des scientifiques ont découvert que des embryons de souris pouvaient eux aussi faire repousser un membre amputé. Farida Djouad est directrice de recherche INSERM et chercheuse à l'Institut de médecine régénérative et de biothérapie.
Les embryons de souris, c'est une exception au cours du développement, mais vraiment à un stade très limité. Donc, il y a cette étude pionnière au cours de laquelle il a été décrit qu'après l'amputation du membre de l'embryon de souris, le tissu pouvait repousser. En fait, ce qu'on observait à l'époque, en 1991, c'est une étude qui date, on voyait qu'il y avait une repousse d'une structure, mais on ne savait pas à ce moment-là s'il s'agissait vraiment d'un processus de régénération. On voyait la repousse, la prolifération cellulaire post-amputation chez l'embryon de souris à un stade très précis, le stade de 10 jours de développement. On s'est longtemps questionné sur le fait qu'il n'y ait pas eu de suite à ce travail assez fascinant. La repousse d'un membre chez un mammifère vraiment est passionnante. Et en fait, en étudiant nous-mêmes ce processus, on a très facilement compris que la difficulté technique, en fait, à pouvoir étudier la repousse d'un membre chez l'embryon de souris d'un point de vue technique était assez compliqué à mettre en place parce que l'embryon de souris est tout simplement inaccessible in utero.
Pour pouvoir les étudier, il faut les faire faire grandir ex utero, en laboratoire. C'est une technique de culture déjà possible il y a 30 ans, mais assez compliquée à mettre en place. À cette époque donc, on observait bien une repousse, mais on ne savait pas s'il s'agissait réellement d'un processus de régénération, c'est-à-dire de la reconstruction fidèle d'un bourgeon de membre. Dans cette nouvelle étude parue dans la revue PNAS, les chercheurs et chercheuses ont donc voulu relever trois défis. D'abord, reproduire cette expérience. Ensuite, déterminer jusqu'à quand cette capacité de régénération existe. Et enfin, comprendre quelles cellules en sont responsables. On parle d'amputation ici, et donc il faut souligner ce point éthique fondamental. Les embryons ne ressentent pas la douleur. À ce stade très précoce de développement, les circuits neuronaux impliqués dans la perception de la douleur ne sont pas encore fonctionnels. On est ici autour de 10 jours de développement, avant donc toute douleur et au moment où les membres commencent tout juste à se former. Les scientifiques ont donc cultivé ces embryons en laboratoire, ex utero, et utilisé des outils génétiques pour rendre visibles certaines cellules. Puis, ils ont observé ce qui se passait après l'amputation. Résultat, oui, à 10 jours, c'est bien un membre entier qui repousse, mais cette capacité de régénération ne dure pas, elle disparaît 2 jours plus tard.
Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a étudié plusieurs stades embryonnaires. On a étudié le stade 10 jours, 11 jours, 12 jours. Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que après l'amputation du membre à 10 jours, on avait la repousse de la structure, comme ce qui avait été décrit précédemment. À 11 jours, on avait un tissu un petit peu intermédiaire, hein, une petite repousse, mais pas significative en termes de taille comparée à la structure qu'on pouvait observer à 10 jours. Et à 12 jours, on n'avait absolument plus rien post-amputation. On s'est intéressé ensuite à la présence des cellules qui étaient en cause dans ce processus de régénération. Donc pour cela, on a récupéré les tissus post-amputation à différents temps. On a réalisé des analyses d'expression de gènes qui nous ont permis d'identifier la présence in situ, en local, post-amputation, de cellules dérivées de la crête neurale.
Ce sont des cellules souches très particulières, extrêmement plastiques. 3 heures seulement après l'amputation, elles migrent vers la zone blessée et participent à la reconstruction du membre. Seulement voilà, à mesure que l'embryon se développe, ces cellules de la crête neurale se spécialisent. Elles deviennent pour toujours des neurones, des cellules osseuses, de cartilage ou des cellules pigmentaires, et elles perdent ainsi leur capacité de régénération. Toute la question est donc là. Peut-on reprogrammer des cellules adultes pour leur offrir une seconde jeunesse, pour qu'elles soient de nouveau capable de se régénérer? C'est précisément la suite de ce travail dans un projet appelé iChondro. On reste dans de la recherche fondamentale, mais avec une visée très concrète, produire en laboratoire des cellules humaines similaires à celles de la crête neurale. Et à terme, l'objectif est de tester leur potentiel régénératif chez des patients atteints de maladies dégénératives comme l'arthrose.
Voilà, et vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques d'Alexandra Delbo sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Encore une question, professeur Anou. En médecine, de plus en plus aujourd'hui, et c'est le cas par exemple pour la prise en charge des cancers, on va vers une médecine personnalisée, on traite plus une maladie, mais la maladie du patient. Est-ce que pour l'arthrose, ça va être pareil?
C'est déjà pareil. On a à peu près les mêmes... on a des hôpitaux de jour spécialisés où ils ont bien évidemment une prise en charge de leur articulation, mais où on prend en compte les comorbidités, où il y a de l'éducation thérapeutique, même si j'aime pas ce terme, éducation. on fait exactement le même genre de choses que ce qu'on peut faire dans d'autres maladies cardiovasculaires, en diabéto par exemple. Les diabétologues ont été très promoteurs et initiateurs de ce genre de choses. Mais entre vous et moi, on a toujours pris en charge le patient dans sa globalité. Je sais que c'est à la mode de dire que moi, j'ai...
Mais ça fait 40 ans que vous faites ça.
Mais ça fait exactement... pas 40, 30.
Allez, 25. Excusez-moi. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que c'est vrai que j'ai exagéré. Merci en tout cas beaucoup, professeur Hanou. Et puis on attend évidemment la suite de cette étude qui s'annonce passionnante.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.